version religieuse. Il invente le mot pessimiste et ça rentre dans tous les dictionnaires. Et maintenant, dans toutes les langues du monde aujourd'hui, on croit que on est obligé d'être optimiste ou pessimiste, que c'est une question personnelle, subjective. Et si on est, par exemple, j'en arrive à ce qui m'intéresse, si les Français, hein, ne sont pas capables d'être heureux, parce qu'ils sont, par exemple, mais c'est un exemple qui est le plus important aujourd'hui, euro-pessimistes, on croit qu'il faut qu'ils prennent des antidépresseurs. Et c'est ce qu'on dit dans toute la presse. Hein, bon. Et Hollande dit, je suis optimiste. Et Sarkozy, bien sûr, a été optimiste pour sauver les banques avec notre argent collectif, ce qui nous appartenait à tous, depuis qu'on a mis en place des biens communs depuis 1789. La bourse est optimiste, mais les Français sont pessimistes, euro-pessimistes. Ils sont juste pas d'accord avec l'organisation optimiste, hein, enfin, avec la propagande optimiste qui défend l'organisation européenne telle qu'elle est actuellement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec, parce que c'est synonyme en fait, l'optimisme ou l'ultralibéralisme. Bon, voilà, ça c'est pour l'optimisme. Alors moi je savais ces trois choses-là. Comment on gagne le bonheur contre l'intégrisme catholique au XVIIIe siècle, et on en hérite encore. Comment malheureusement l'optimisme a surgi dans nos esprits comme nouvelle religion, et sans même qu'on le sache. Ce qui est le sommet d'une idéologie, c'est-à-dire les idéologies les plus puissantes, c'est quand on ne sait même pas que c'est une idéologie. Le catholicisme intégriste, on sait que c'en est une. La religion aujourd'hui musulmane intégriste d'extrême droite djihadiste, on sait que c'est dangereux. Mais l'optimisme, on ne sait pas. On croit même que c'est bien d'être optimiste. Comme on croit, quand on nous interroge sur les indicateurs de bien-être, hein, que c'est sympa, que ça serait bien qu'on puisse répondre à un sondage en disant, oh ben moi subjectivement, je me sens quand même bien. Alors, j'arrive à peine, je ne peux pas acheter un appartement, j'ai pas assez d'argent, hein. J'ai la trouille d'être au chômage, mais comme j'ai des amis à côté dans le même immeuble et que ce qui compte c'est de faire de la fête en buvant un coup, bon, avec les amis, bah, je me sens bien. Le bonheur subjectif. Je savais ça, et puis je savais aussi que la Révolution française est le grand moment après la Révolution américaine où le bonheur devient une question de solidarité dans la lutte contre les fatalités naturelles et dans la lutte contre les malheurs publics qu'organisent les gouvernants quand ils trahissent, hein, leur peuple. Mais ce que je ne savais pas, c'est ce qui m'a mené à une nouvelle enquête grâce à Magali, alors aussi à Michel, puisqu'elle m'a embarqué dans les histoires sur le bonheur.
Hein, bon. Tu travailles en thème.
Exactement. Bon.
C'est
Et alors,
incroyable.
Moi, je fonctionne comme Magali ou comme Sylvie Catelin, qui est ici, là, qui a écrit le plus beau livre sur la sérendipité, qui n'est pas du tout le fait de découvrir des choses par hasard, mais de découvrir quelque chose parce qu'on est très surpris et qu'on veut comprendre ce qui se passe et qu'on essaye d'interpréter. Alors, première surprise, je travaille depuis quelques semaines avec Magali. Et pourquoi est-ce que moi, ce que je trouvais assez sérieux quand même, c'est-à-dire les indicateurs de bien-être, parce que j'ai un ami qui travaille là-dessus, qui est d'ailleurs très critique aussi, mais Michel Renaud, il sait, hein, vous l'avez, enfin, j'ai commencé à travailler avec lui, hein. Bon, il sait que le fait de dire le PIB, le produit intérieur brut, c'est pas suffisant, parce qu'en fait, c'est une moyenne globale d'un pays, et donc les États-Unis sont enfin, un des plus hauts, bon, un des pays placés les plus hauts, pardon. Et ça n'empêche pas une inégalité très forte. Des gens comme le prix Nobel Sen, là, dont on pourra reparler, bon, disent, oui, mais il faudrait aussi penser à l'éducation et à la santé. Et moi, je trouve ça formidable, ça. Mais Magali, elle y va carrément avec sa liberté critique et artiste. Et elle dit que c'est de la propagande, en gros, dans les textes qu'elle m'envoie pour qu'on commence à travailler. Bon. Et elle en rigole beaucoup. Bon. Et donc, surprise. Bon. Et je donne après. Après mon petite enquête, totalement raison à Magali, même si j'avais déjà travaillé sur les indicateurs avant. Deuxièmement, la semaine dernière, j'ai vu une émission des Paroles et des Actes animée par Pujadas, passée sur France 2 le 24 mars. Tout a été réorganisé parce qu'il venait d'y avoir un nouvel attentat encore à Bruxelles. Et ça s'appelait L'Europe face au terrorisme. Et après les débats sur la manière de combattre l'islamisme intégriste, et l'invitation en guest star du maire pendant 20 ans de Molenbeek, qui était très content de lui, Alors que des gens comme Gilles Kepel expliquent que l'islamisme monte grâce, entre autres choses, pas seulement, mais au clientélisme des partis politiques de gauche et de droite qui sont associés avec des imams qui rendent des populations d'origine maghrébine musulmanes intégristes, ce qu'ils ne demandaient pas forcément. Et par là, les imams gagnent des troupes et les hommes politiques gagnent des voix. Et donc après l'avoir entendu, lui, et puis plein d'autres gens qui se demandaient comment combattre l'islamisme, et bien on a demandé à chaque participant de toutes les missions, et c'était une émission majeure, c'était, bon, il y avait eu les attentats en janvier 2015, les attentats en novembre 2015 à Paris, puis après encore Bruxelles. Et cette fois-ci, on dit c'est l'Europe qui est en danger. Quelle Europe ? Enfin, évidemment, nous sommes tous en danger, mais l'Europe qui est en danger pour Pujadas et pour d'autres, c'est peut-être pas celle que nous souhaitons, nous. Donc on a demandé à chaque participant, c'était la conclusion, est-ce que chacun est optimiste ou pessimiste ? Et tous ceux qui s'inquiétaient beaucoup de la montée de l'islamisme, était pessimiste. Le maire de Molenbeek, il était totalement optimiste. Et puis d'autres gens étaient très optimistes. Et puis il y a une deuxième conclusion. Pujadas, pour nous détendre, parce que ce qui compte, c'est qu'on se sente bien, après ces inquiétudes ou ces horreurs. Hein. Et ce qu'on sent, alors est-ce que le mot guerre est bon ou pas, enfin, en tout cas, les djihadistes, eux, ont déclaré une guerre. Hein. Nous, comment on doit combattre ça, c'est une autre affaire, mais... Eh bien, Pujadas dit qu'il a invité un sage. Le sage, il a dit comme ça, hein, c'est Christophe André, pour nous détendre et nous rendre optimistes. Alors lui, il est tellement optimiste que ça ne l'inquiétait même pas, les attentats terroristes. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission. Donc c'est un psychiatre qui a écrit un livre avec le plus célèbre des bouddhistes français, Mathieu Ricard, pour nous dire comment être heureux. Je suis allé sur Internet pour voir ce qu'il en était. Sur la première page, je n'avais jamais vu ça, il n'y a rien de marqué, il y a juste... la photo des 15 derniers livres avec lesquels il a gagné énormément d'argent en prétendant nous rendre heureux à sa manière, c'est-à-dire surtout pas politique. Surtout pas sous forme de solidarité entre les gens pour que, non pas on cherche son bien-être personnel, mais qu'on cherche à s'associer pour éviter le malheur de soi et des autres. Et je retrouvais bizarrement des questions religieuses, là, donc l'islamisme, l'optimisme, religion qui est à l'ancêtre de l'ultralibéralisme, et le bouddhisme qu'on retrouve aussi dans les indicateurs de bonheur. Alors, j'étais troublé, parce que c'est le Bhoutan, pays bouddhiste, qui a...
Je vais y venir après.
Bon, ouais, d'accord. Ouais. Bon. Troisième surprise, enfin, c'est pas une surprise, mais c'est, je me demande, moi, depuis longtemps, et donc j'ai essayé de répondre, et j'ai fait une synthèse, je pourrais peut-être... Enfin bon, que je vais vous dire, donner. Depuis un an, là, c'est pas depuis quelques semaines, mais au moins un an, je me demande quel est le lien entre la très grande révolution économique et politique à laquelle on assiste en ce moment, je dirais environ depuis la chute du mur, et c'est pas du tout pour pleurer sur l'URSS, je suis très content que le mur soit tombé, hein, mais ça a entraîné, disons, ça a radicalisé un mouvement qui est désormais une très grande révolution, presque invisible, mais qui est la révolution ultralibérale et détruisant la politique et la République que l'on connaît. Et au même moment, il y a une très grande révolution culturelle ou idéologique qui prend la forme en fait du développement du numérique, mais ça peut aller dans tous les sens, c'est compliqué, bon là j'en parlerai pas, et le développement de l'islamisme intégriste, son retour. Alors je voulais essayer de comprendre pourquoi Magali trouvait que c'était de la daube, de la blague, tous ces indicateurs. Pourquoi l'émission sur le terrorisme s'est terminée par l'optimisme et par le bouddhisme. Et puis, finalement, comment mettre ensemble cette histoire du bonheur, qui est en fait une histoire politique et religieuse, dont on nous fait croire qu'elle est une histoire de bien-être individuel. Évidemment que nous cherchons le bien-être individuel, mais c'est pas le problème. Enfin, à vrai dire, moi, mon but dans la vie n'est pas le bonheur. C'est un peu plus compliqué. Ça peut être de faire le bonheur des autres. C'est ce qui fait mon bonheur. Ça peut être d'arriver à créer quelque chose d'intéressant. Ça peut être de vivre un bon moment avec quelqu'un, mais pas forcément le bonheur avec un grand B. Enfin, ça ne se dit pas forcément comme ça. Et Maintenant, je ne sais pas si j'ai déjà parlé trop longtemps, mais je voudrais vous dire.
Une dernière phrase.
Ah non, bah alors je ne pourrais pas. Alors je reprendrai la parole tout à l'heure.
Bon, voilà,
je reprendrai la parole tout à l'heure.
C'est vrai, il y a Sébastien aussi qui a des choses à dire, et puis j'ai énormément de trucs encore à montrer.
Ouais, ouais.
Wow. Et super bien.
Oui, alors.
Alors je ne la reprendrai pas.
Non, moi je dis juste, j'ajoute quelque chose parce que tu sais qu'on a le printemps de l'optimisme chaque année.
Donc je ne savais pas.
Voilà. Et qui se fait au. Comment ça s'appelle? C'est pas le comité, mais c'est l'Assemblée économique, sociale.
J'avance,
et
Michel, vraiment, j'avance. J'ai beaucoup de choses à montrer. Et
voilà. Donc très politique et très officiel. C'est Thierry. C'est Thierry Saucet.
Alors,
le grand communicant Thierry Saucet qui fait ça.
Je voudrais quand même vous montrer deux, trois choses. Je vais rebondir sur la télé. Alors, celui-là, je ne vous montre pas, on n'a plus le temps. Pour vous montrer ce qu'on pouvait voir à la télé dans des rapports, donc c'est André Malraux, hein, en 1974, dans l'émission Aujourd'hui, Madame.
Oui, ça, c'est la réalité. C'est important pour une mère d'être heureuse, de se débrouiller pour être heureuse, d'être douée pour le bonheur.
Et je crois que les femmes, là vous dites une chose très intéressante, je crois que les femmes sont beaucoup plus douées pour le bonheur que les hommes.
Heureusement pour elles.
Il y a qu'un écrivain homme, avec Jean Lecoq, ça s'appelle, qui n'a jamais écrit que les hommes étaient doués pour le bonheur, c'est juste.
Les femmes tristes, c'est une calamité, elles ne devraient jamais avoir d'enfants, une femme triste. Une femme douée pour la tristesse, c'est une calamité pour les enfants. Ils ont tellement besoin de bonheur, d'une femme heureuse, enfin.
Le bonheur va bien aux femmes, il ne va pas très bien aux hommes.
Alors.
Super, super.
Quand même, quand. Non, mais ça fait quand même, on va dire. Voilà, c'est 1974, ça fait 40 et quelques années, et on ne pourrait plus voir ça, donc c'est intéressant.
Oh, c'est dit autrement.
C'est dit autrement, effectivement. Alors, toujours dans des questions, on va dire, télévisuelles, Ban Ki-moon de l'ONU. Pardon.
Be happy. Vive le bonheur. Croyez le. C'est feliz. Hon Saidan. Butch Chachelet. Vive le bonheur. Croyez le. C'est feliz. Hon Saidan. Butch Chachelet.
Be happy.
Je ne sais pas trop pourquoi il y a besoin de ça. Et alors, dans un autre genre, par contre, je n'ai pas coupé les trois premières secondes, donc bouchez-vous les oreilles, il y a une sorte de Larsen. Christine Lagarde.
Toujours bronzée, j'espère.
Sûrement bronzée.
Parce qu'elle est toujours bronzée.
Moi, je l'ai appelée la commission du bonheur, parce qu'elle rassemble beaucoup de matières grises et beaucoup d'espérance. Elle nous parle de l'avenir, elle nous parle de la manière dont on peut intégrer des notions comme le bien-être dans la mesure économique. Voilà. Et je crois que ça nous met dans une disposition positive dans cette période de traversée de crise.
Voulez-vous, là.
Okay. Bon, je vous ai mis ces trois petits extraits, effectivement, très rapides. Elle évoque quand même, juste pour le préciser, le rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi qui a été commandité en 2009. Et qui a été apparemment mondialement très écouté, qui est sur les nouveaux indicateurs. Donc il s'agit effectivement de ne plus avoir que le PIB comme unique valeur de mesure, mais d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mesurer d'autre pour ne pas avoir que l'économie comme critère. Donc avec Robin, nous sommes allés interviewer Claudia Sénic, qui est professeure à Paris-Sorbonne 4, d'économie, qui a écrit ce livre.
Oui, qui a fait un livre. Oui.
L'économie du bonheur. Et je vous ai choisi quelques courts extraits.
Je suis professeure d'économie et je travaille sur l'économie du bonheur depuis maintenant 15 ans. C'est-à-dire l'économie du bien-être subjectif ressenti, déclaré par les gens. Pas l'étymologie, mais l'économie, c'est. Il y a plein de définitions. C'est la science des choix. C'est-à-dire, les gens ont des choix à faire sans cesse. Et l'économie, c'est de comprendre comment les gens font les choix, puis après, comment ces choix se coordonnent et comment ça fait tourner la société. Donc, dans quel but ils font ces choix? Dans le but, dans un certain but, en fait. Dans le but d'atteindre un niveau le plus élevé possible de quelque chose, qu'on appelle parfois utilité, que Pareto avait appelé offe limitée, pour être sûr qu'on ne comprenne pas ce que c'est. Donc bien, signifie que les gens font des choix dans un but qui est le leur. Et on peut supposer quand même, avec toute la philosophie, ou quasiment toute la philosophie, que derrière ce but, il y a la tentative d'être bien, d'être heureux. Donc l'économie, c'est la science des choix que les gens opèrent dans le but d'être heureux. Dans ce domaine de recherche, on cherche à savoir ce que les gens eux-mêmes mettent derrière cette notion. On ne cherche pas à donner nous-mêmes une définition et à essayer de voir si cette définition... on ne l'impose pas aux gens. En fait, c'est un domaine de recherche où on recueille le sentiment des gens, leur ressenti, et on essaye après de se débrouiller pour comprendre d'où ça vient. Donc la définition, à la limite, on est complètement agnostique. On leur pose la question du bonheur parce qu'on pense que c'est ça que les gens essayent d'atteindre, mais après, avec toutes les informations qu'on recueille sur eux, on essaye, nous, de découvrir quelle est la définition du bonheur que les gens poursuivent. Donc on n'est pas du tout normatif. Non, mais la réponse, vous allez être très déçus, on demande aux gens de mettre des notes, de se mettre une note. Donc, sur une échelle de 0 à 10, est-ce que vous pensez que dans l'ensemble des vies possibles aujourd'hui, votre vie est la meilleure possible, 10, ou la pire possible, 0, ou entre les deux? Ça, c'est une manière de poser la question. On pense que chacun a ses propres... sa propre recette. En fait, les gens font une sorte de cuisine avec les ingrédients de leur vie pour aboutir à une évaluation synthétique. Et cette synthèse, cette note synthétique, ils la font chacun à leur manière. Et donc, on ne veut surtout pas leur donner d'indication parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est justement, en gros, selon les groupes de population, quelle est cette recette. Donc, on essaie de comprendre un peu quels sont les fondements ou les corrélats, idéalement les fondements, peut-être économiques, du bonheur ressenti par les gens. Est-ce que l'économie compte ou pas, quoi? Est-ce que ça compte finalement? Voilà, si d'un côté je mesure le bonheur des gens, d'un côté je mesure leurs revenus, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Ouais, dès qu'on mesure un indicateur, dès qu'on mesure une grandeur, elle devient un objectif. Pour l'instant, on mesure le revenu par habitant, le PIB, et l'emploi ou le chômage. Donc c'est quelque chose que tout le monde observe et ça devient l'objectif du gouvernement. Si on mesure la satisfaction dans la vie ou d'autres dimensions, comme c'est le cas maintenant, ça devient un objectif puisque le gouvernement est jugé sur sa performance suivant ses objectifs, suivant ses indicateurs. Mesurer, c'est gouverner. Tout ce qu'on mesure, tout ce qu'on décide de mesurer et de rendre public devient l'objectif du gouvernement.
Voilà. Donc, Claudia Sénic travaille entre autres en lien avec l'INSEE. Donc, là, je vous ai mis un petit extrait du questionnaire. Vous connaissez quelqu'un qui a déjà été interrogé pour le moral des ménages et la confiance des ménages? Je serais curieuse de rencontrer quelqu'un qui a reçu qui a été... Puis alors je me dis, mais alors ils font quoi? Ils téléphonent? Parce que de nos jours, on a de moins en moins de téléphones fixes. Enfin, moi, je ne réponds plus à mon téléphone fixe puisqu'on ne cherche qu'à me vendre des fenêtres ou des cuisines. Donc, en fait, finalement, ils doivent cibler. Enfin, voilà, je ne sais pas comment ça marche. En tout cas, il y a ce questionnaire. Vous entendez à la radio souvent que nous avons un mauvais moral, nous sommes une mauvaise confiance, etc. Donc, voilà le type de questions qu'ils posent. À votre avis, au cours des 12 derniers mois, le niveau de vie en France dans l'ensemble s'est nettement amélioré, etc. À votre avis, au cours le niveau de vie en France dans l'ensemble va s'améliorer? Pensez-vous que... En fait, c'est des questions extrêmement généralistes. Je vous invite à lire la question 6. Dans la situation économique actuelle, pensez-vous que les gens aient intérêt à faire des achats importants, meubles électroménagers, matériel électronique ou informatique, plutôt favorable ou pas? On imagine que le jour où son frigidaire lâche, moi ça m'est arrivé, peut-être à certains d'entre vous aussi, on s'est vachement posé la question de la situation économique globale avant d'aller changer le frigidaire. Et donc Claudia, j'essaye de faire vite, Sénic, travaille sur de nouvelles questions qui vont être intégrées à ce questionnaire, qui sont celles qu'elle a listées. Donc je n'ai pas pu vous amener le document puisqu'elles ne sont pas encore intégrées sur le site de l'INSEE, donc c'est un scoop. Donc c'est dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la vie que vous menez actuellement? Et vous vous donnez cette note de 1 à 10 et il y a une quinzaine de questions. Vous êtes-vous senti heureux hier? Et vous notez de 1 à 10. Vous êtes-vous senti déprimé hier? Vous vous notez de 1 à 10. En dehors de votre famille, avez-vous ressenti de l'agressivité envers les gens que vous avez rencontrés? Êtes-vous satisfait de votre santé? Êtes-vous satisfait de l'équilibre temps travail, temps consacré? Comment pensez-vous que sera la vie en France pour la prochaine génération, dans les autres pays de l'Union européenne? Je vous lis la dernière qui me plaît assez. Si vous pouviez vivre dans une autre époque, années 50, 60, 70, 80, 90, ou une autre décennie ou siècle dans le passé, une période dans l'avenir, voilà, est-ce que vous seriez content sinon de vivre aujourd'hui? Donc on vous demande en fait d'essayer de vous situer dans le temps et de vous projeter dans ce potentiel chose. Alors, lui, je ne vous donne pas l'extrait parce que l'interview par Skype est tellement, tellement mauvaise, puisque son ordinateur bougeait tout le temps. Il y avait des gens qui faisaient des travaux derrière et des oiseaux. Donc, il s'agit de Ha Vinto, qui est directeur du Centre de formation du bonheur national brut au Bhoutan. Donc, c'est un franco-vietnamien. Voilà, j'ai contacté les organisations bouddhistes et puis ils m'ont mis en contact avec cette personne, donc, qui était idéale, puisqu'on a pu faire une interview en français, ce qui peut être souhaitable dans ce genre de choses extrêmement précises. Et donc, il m'a transmis un certain nombre de choses que je vais me permettre de vous lire, rapide. Il m'explique un peu ce que c'est que ce fameux bonheur national brut qui a été créé en 1972 et qui, mine de rien, figure maintenant sur le site de l'ONU. Donc, il dit « Notre définition du bonheur est en lien aussi avec notre analyse de ce que sont les causes de la souffrance. Donc, selon nous, les causes principales de la souffrance sont ce qu'on appelle la triple aliénation ou triple déconnexion. Séparation de l'être humain avec son environnement naturel, donc avec la nature, séparation des êtres humains les uns des autres et une séparation de sa propre nature profonde. Le bonheur dans ce contexte, ce serait de se relier, d'être en harmonie avec soi-même, avec les autres et l'environnement naturel. L'idée bouddhiste de la réincarnation, c'est qu'on a de multiples vies. Je le questionnais en fait sur cette histoire de salut qu'on a entendu avec le prêtre, enfin, on l'a un tout petit peu évoqué, donc eux ils n'ont pas le salut, ils ont la réincarnation. Donc pas seulement une vie, mais après, que ce soit, voilà, pas, bref. L'idée c'est un processus, donc en constante évolution. Mais le bonheur national brut, ça vise l'ici et le maintenant, et pas l'au-delà. Ce qui est une vision stable, c'est de clarifier le fait que l'économie est au service de la société, et pas la société au service de l'économie. Alors autant le bonheur national brut est inscrit dans la Constitution, toutes les décisions politiques sont passées au crible du bonheur national brut. C'est une commission interministérielle dirigée par un Premier ministre qui passe en vue tous les projets gouvernementaux. Il y a une sorte de matrice avec les différents éléments du bonheur national brut et tous les projets sont passés par cet examen. Et il m'explique, c'est assez intéressant, qu'au moment où ils ont voulu voter l'adhésion du Bhoutan, qui est un tout petit pays, hein,
oui, tout petit.
Vraiment tout petit, à l'Organisation mondiale du commerce, ils ont passé cette décision via leur matrice du bonheur national brut et ils ont décidé de ne pas adhérer à l'Organisation mondiale du commerce. Il termine en disant « Alors c'est vrai, il y a toujours le danger que ce soit récupéré à des fins politiciennes, mais il y a une prise de conscience assez forte. C'est qu'un des éléments qui doit changer, c'est qu'un des éléments doit changer, c'est comment on mesure les développements et comment on mesure le progrès. »
Je peux dire un mot sur le Bhoutan ?
Non.
Non.
Je voudrais qu'il parle.
Ah bah oui, mais moi je croyais qu'il allait parler depuis longtemps, pardon.
Pardon, c'est un peu
autonome. Moi j'essaierai de faire
non, mais après, bien sûr.
Voilà. Peut-être les gens vont partir, mais on aura le temps d'échanger après. Voilà, bon, vous pouvez regarder le rapport sur le bonheur annuel de l'ONU. Je vous montre celui-là parce qu'il est, tout mignon celui-là, il est quand même très joli. Parce que le rapport annuel de l'ONU, c'est un énorme texte. J'y arrive. C'est l'indicateur du mieux vivre de l'OCDE. Bon, c'est un peu lent.
Oui.
Peut-être tu peux. Peut-être tu peux prendre et puis je vous le montrerai après cet indicateur pour que Sébastien. Non, il est bien l'indicateur du bien-être, du mieux vivre de l'OCDE parce qu'il ressemble exactement à la Redoute ou aux Trois Suisses. Vous savez, quand vous allez, pour ceux qui font ça, vous savez, vous commandez dernière minute le pyjama hiver, taille 8 ans, et vous avez plein de petits curseurs, et vous pouvez choisir modèle garçon, taille, la taille, vous pouvez choisir la marque, vous choisissez le type de couleur, s'il est en solde ou pas, vous mettez plein de critères, et tac, ça vous sort les 12 modèles de pyjama possibles que vous pouvez choisir. Et ben, ça ressemble. Donc je passe la parole à Sébastien qui lui a travaillé sur cette partie qui est donc la suite. Une fois qu'on a vu les indicateurs et les statistiques, ben, ces statistiques elles sont mises en ligne pour être accessibles. Alors je t'introduis juste, Emmanuel Didier, le sociologue là, de la quantification, essayait d'expliquer mais pourquoi on met ces choses en ligne. Pour lui, c'est une ressource d'argent. L'État se dit, si j'ouvre mes données, il y a des entreprises qui vont les utiliser. En les utilisant, elles vont générer une forme d'activité. Sauf que Sébastien, il a essayé donc de rentrer dans ces données
Ok, moi j'ai essayé de faire vite. Moi, c'est en fait, je vais vous présenter voilà, les open data, qu'est-ce que c'est. Alors, je ne prétends pas être un expert en la matière, c'est avant tout, voilà, ça découle de mon expérience de développeur dans le cadre du projet aussi de Magali, voilà, mon expérience face aux open data. Donc, j'ai essayé de vous présenter voilà, une définition de ce que c'est l'open data, parce que ça nous concerne finalement tous par rapport aux problématiques qu'on a évoquées auparavant. Donc l'open data, bah, c'est une donnée, donc, données ouvertes, hein, c'est une donnée numérique d'origine publique ou privée, diffusée de manière structurée, en libre accès, selon une méthode ouverte, réutilisable par tous, sans restriction technique, juridique ou financière. Ça, c'est la définition théorique de ce que c'est que l'open data. Un exemple rapide, si je sais pas, je prends en photo des manuscrits et que je diffuse librement leur image sur Internet, je ne fais pas de l'open data, parce que même si c'est une image, même si c'est une donnée numérique, ce n'est pas structuré. Vous avez peut-être souvent manipulé des documents Word ou PDF, ce n'est pas considéré comme des données suffisamment structurées pour être qualifiées comme de l'open data. Donc il y a une définition assez stricte de ce que c'est. Petit historique par rapport à l'open data, on retombe en fait sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Si on considère que l'article 15, donc la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, on considère que voilà, cet article-là, c'est un peu le ferment de l'open data, que cette idée, ce mouvement découle à l'origine de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais il a fallu quand même attendre pas mal de temps, donc 66 et 78, donc Freedom of Information Act aux États-Unis, puis en 78 la loi CADA en France, pour que justement cette idée de transparence, d'accès libre des administrés aux données de leur administration soit inscrite dans la loi et fasse l'objet de mesures incitatives, voire même obligatoires. C'est que les administrations sont censées voilà, obliger de au moins publier leurs données, au moins rendre, faciliter l'accès à celles-ci. Là où les choses ont commencé à s'accélérer, c'est évidemment l'avènement du web, donc fin des années 90. Justement, le droit du public à accéder à l'information administrative, considéré par certains comme formant la base d'une troisième génération des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on a eu une première génération, c'est en rapport en droit politique. Deuxième génération, c'était plus par rapport à l'égalité sociale et économique. Troisième génération des droits de l'homme serait axée voilà, je pense, sur ce droit du public à l'accès à l'information, aux informations qui le concernent. Donc ça a pris bon, quand même un petit peu de temps. Rapidement, donc, c'est à partir de 2002 qu'il a commencé à avoir certaines initiatives au niveau de l'État français, donc le site Légifrance qui en fait diffuse tous les textes législatifs et réglementaires, décisions de justice, etc. C'est un des premiers sites à rendre toutes ces données-là publiques et véritablement sous forme open data, c'est-à-dire honorant les critères que j'ai rapidement évoqués auparavant. Ensuite, on a eu datagouv.fr, donc c'est vraiment le portail de l'État français avec l'accès donc, à un ensemble de données nous concernant. Donc ça, il a fallu attendre 2011. 2013, Open Data France, ça c'est ce qui regroupe l'ensemble des collectivités, des initiatives locales, des différents acteurs du mouvement Open Data en France. À titre d'information, en 2014, la France est en troisième position au niveau de l'Open Data Index. Donc c'est l'Open Data Index, c'est voilà, une organisation qui suit un petit peu ce qui se fait au niveau de l'open data sur le plan international et suivant un ensemble de critères évalue la position des différents pays par rapport aux objectifs justement de rendre les données accessibles aux administrés. Donc en 2014 la France était 3e et en 2015 elle est tombée à la 10e position. Donc il n'y a pas forcément des régressions, ça peut être un peu de stagnation, c'est aussi le fait que bah, tous les pays se foncent là-dedans, et notamment bon, on voit Taïwan qui est en première position en 2015, était en 11e position en 2014. Donc voilà, ça bouge énormément et c'est pas quelque chose qui est forcément acquis. Ça demande quand même bah, des mesures constantes pour assurer ces critères d'open data. Alors quelles données sont concernées par, par les open data. Alors, quand on parle d'open data, c'est quel type de données? Ben justement, là, c'est l'affiche de la France à l'open data index. Donc là, on voit les différents critères, les différents types de données qui sont pris en compte par l'open data index pour évaluer la position d'un pays. Donc on a weather forecast, donc c'est tout ce qui est météorologie, on a les résultats des élections, est-ce que le budget du gouvernement est accessible, la qualité de l'eau, les dépenses de l'État, tout ce qui est marché public, etc. Donc il y a tout cet ensemble de données qui sont considérées comme étant significatives par rapport à l'engagement d'un pays dans l'open data. Et tout un ensemble de critères, donc bon, je n'ai pas trop passé de temps dessus, mais grosso modo, on voit bien, bon, tout en sévère, tout va bien. Et typiquement, donc, la France est en premier rang, par exemple, pour tout ce qui est météorologie et résultats des élections. Par contre, si on va voir du côté de donc, en gouvernement spending, donc les dépenses de l'État, voilà, là, on n'est pas forcément très bon, tout est un peu rouge. Donc, ça veut dire que les données ne sont pas accessibles, qu'elles ne sont pas lisibles par une machine, qu'elles ne sont, si on peut y accéder, pas forcément gratuitement. Et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de blocages à ce niveau-là. Ça n'empêche pas quand même la France d'être 8e au niveau mondial. Bien qu'en finalement n'ayant pas de données à fournir aux administrés, on est quand même 8e, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est bien? Oui, elles existent. C'est le petit truc vert, c'est juste dire que les données existent. Elles existent quelque part, mais on ne peut pas y accéder. Bon. Donc voilà grosso modo quel genre de données sont potentiellement accessibles. Suivant des ressources qui sont plus ou moins centralisées. Donc il y en a beaucoup qui sont regroupées dans le site datagouv.fr. Il y en a d'autres qui dépendent d'autres administrations. C'est finalement ce qu'on a au niveau de la France, c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, des jeux de données qui sont accessibles sur Internet, avec une petite flèche noire qui en fait représente les interconnexions qu'il y a entre ces différents jeux de données. Donc on a des données qui sont gouvernementales, des données qui sont liées aux publications scientifiques, aux médias, aux réseaux sociaux. Et on a voilà, des endroits où il y a des concentrations, donc il y a des BPDIA, ça c'est tout ce qui regroupe les... en fait c'est une initiative collaborative qui vise à rendre open data, on va dire, toutes les ressources qui sont collectées au niveau de Wikipédia. Donc c'est pas seulement les articles en eux-mêmes, mais c'est toutes les ressources, images, etc., références, qui sont accessibles de cette manière-là. Donc forcément, il y a beaucoup de liens qui sont établis par rapport à ça. Et on trouve, donc dans la partie gauche, qui est tout ce qui est lié aux données gouvernementales, on a pas mal de concentrations de flèches. Donc on ne voit pas très bien sur l'écran, mais ça, c'est les open data du gouvernement anglais, donc du Royaume-Uni, qui sont très en avance par rapport à ce genre d'initiative, donc rendre accessibles les données publiques aux administrés. Mais donc voilà à peu près à quoi on a affaire. Donc il y a vraiment, je dirais, l'embarras du choix par rapport aux données, dans le cadre d'un projet comme celui de Magali, les données qu'on pourrait explorer. Nous, on s'est concentré sur, pour l'instant, sur Eurostat. Donc Magali en a parlé, donc c'est ce site, cette base de données statistiques européennes. Et en termes d'exploration, dès qu'on rentre dedans, comme je disais, voilà, vous qui entrez, c'est toute espérance. Le premier frein, je dirais, à l'accessibilité des open data, bah, c'est en termes d'exploration. C'est-à-dire que si on ne sait pas trop ce qu'on veut chercher, on n'est pas prêt de trouver quoi que ce soit. On a accès à un index, donc, comme on a évoqué tout à l'heure, c'est, il y a plus de 4000 datasets, donc jeux de données qui sont accessibles. La navigation au milieu n'est pas forcément facile, le moteur de recherche n'est pas beaucoup. Dès qu'on tombe sur quelque chose, on a affaire voilà, à des tableaux de données qui sont assez bruts. Et dès qu'on veut essayer d'aller plus loin, de creuser, de filtrer un petit peu, on entre dans une cascade de formulaires et de sous-formulaires où on fait inévitablement face à tout le jargon statisticien qui est en vigueur dans ce genre de site. Et c'est à peu près pareil pour les autres. Et on navigue de page en page, de référence en référence pour tomber sur ce genre de documents qu'on a vu rapidement tout à l'heure. Donc c'est 2013, donc il y a une commission européenne qui a établi donc ce module sur le bien-être avec tout un ensemble de variables clairement identifiées, les valeurs qu'elles peuvent prendre, etc. Donc on a vu tout à l'heure la variable PW020 qui correspond au sens de la vie. Entre 0 et 10, c'est donc, enfin pour les amateurs de Douglas Adams, la valeur 42 n'est pas admise. Vous pouvez répondre, alors ça c'est une petite astuce, si un jour vous devez répondre à un formulaire ou à un questionnaire Union européenne, si vous ne savez pas, vous répondez directement 99. Comme ça, ça leur fera gagner du temps. Pourquoi 99, je ne sais pas. Donc on se dit, on a l'impression qu'il ne faut pas beaucoup d'efforts pour rendre les données accessibles. Parce que c'est vrai que c'est vraiment très ardu, c'est beaucoup... c'est pour moi, vraiment très difficile de rentrer dedans, vraiment chercher des informations qui nous intéressent, pouvoir les visualiser. On dit, franchement, ils font peut-être beaucoup d'efforts pour récolter les données, mais ils pourraient peut-être en faire un petit peu plus s'agissant de les rendre accessibles aux internautes et aux citoyens lambda. Mais c'est la partie, on va dire, émergée de l'iceberg. Il faut se rendre compte qu'est-ce que c'est que les données qu'il y a derrière. Toutes ces données quantifiées, comment elles sont représentées en interne, comment elles sont gérées. Donc très rapidement, on va parler des hypercubes. Typiquement, si on va partir d'un carré, dans un carré, je peux représenter quoi ? Bah, typiquement, par exemple, le salaire moyen des Français au cours du temps. Donc, dans un axe, je peux avoir les années, et puis dans l'autre axe, bah, j'ai le salaire moyen des Français. Bon, ça peut suffire à faire un petit graphe, mais en termes d'analyse, c'est pas suffisant. On veut pouvoir, par exemple, différencier par sexe. Donc là, on passe donc là à un cube, trois dimensions. Donc j'ai le sexe, le salaire moyen et l'année. Mais en général, ça ne suffit pas non plus pour nos chers analystes. Il faut rajouter d'autres informations. Alors, je ne sais pas, moi, les classes d'âge, degré d'urbanisation, degré d'éducation, niveau d'éducation plutôt. Et puis, bon, comme c'est les données européennes, on rajoute une septième dimension qui va être le pays. Et donc là, on se retrouve face à un hypercube de données. C'est un hypercube, c'est un cube qui a plus de trois dimensions. Et en fait, en interne, derrière tous ces formulaires abscons, ben, on a des données qui sont topologiquement comme ça, c'est-à-dire des données multidimensionnelles. Donc là, on a 7 dimensions, on peut trouver des jeux de données à 8 ou 9, voire plus de dimensions. Et donc on n'est plus dans des petits tableaux Excel, hein, comme on a peut-être l'habitude de faire quand on fait sa compta, avec juste colonnes et lignes. Voilà. Là, on a des données qui peuvent s'étendre sur un ensemble extrêmement important de dimensions qui sont autant de points d'attaque justement pour après faire des analyses et des rendus de données. Donc effectivement, comment rendre facilement accessible ce genre d'informations? Je dirais que la mission est quasiment impossible, et Eurostat ou d'autres sites similaires, je pense qu'ils ont fait les efforts qu'ils pouvaient, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour les rendre accessibles. Il me semble difficile de faire mieux que ça. En tout cas pour les citoyens. Et si nous, moi en tant que développeur, je veux exploiter ces données-là, bah, pour les rendre visibles d'une manière ou d'une autre, je fais face, là vraiment on rentre au plus profond de la machinerie. Donc là, en l'occurrence, format SDMX. C'est-à-dire que le but, c'est pas seulement de récolter des données et puis de les utiliser pour soi, c'est aussi de pouvoir les échanger entre administrations, entre pays, entre collectivités, entre organisations. Et donc, il fallait bien se mettre d'accord sur un format d'échange standard. Donc, c'est format SDMX. Il y en a d'autres. Celui-là, c'est un des plus utilisés. Donc, voilà, promouvoir la diffusion et les échanges de données et de métadonnées statistiques. Donc, cette initiative qui a été lancée en 2002 par beaucoup d'organismes. Il y a Eurostat, il y a le FMI, l'OCDE, l'ONU. Donc, tous ceux-là se sont regroupés pour dire, bon, on va établir un format. La norme a émergé en 2005 en tant que norme ISO, donc ce format SDMX, maintenant pratiquement tout le monde l'utilise. C'est que récemment qu'ils se sont dit, bah, ça serait peut-être cool de faire un truc qui soit un peu plus accessible pour l'Internet, parce que le format n'est pas trop fait pour ça, c'est un peu vieillot, on va dire. Donc là, il y a un nouveau format en cours de standardisation, mais bon, pas très utilisable. Et à quoi ça ressemble ? C'est des documents comme ça, bon, c'est des documents textuels, hiérarchisé sous forme d'arborescence, c'est très très abscon. Là, on a justement la fréquence du sentiment de bonheur au cours des 4 dernières semaines. Donc, c'est le jeu de données ILC underscore PW08. Et donc, on a les données brutes qui sont formalisées comme ça. Mais en fait, quand j'ai ces données-là, qu'on accède à une adresse aussi particulière, je ne sais pas que c'est la fréquence du sentiment de bonheur. J'ai juste des informations. Si je veux, par exemple, là, je peux dessiner des lignes, mais je ne peux pas afficher une légende qui va expliquer ce que c'est. Il faut que j'aille chercher ça dans un autre document, qui a une autre adresse, qui est dans un autre format avec une autre nomenclature. Oh, et même ça, ça ne me dit pas que c'est encore la fréquence du sentiment de bonheur. Là, je peux faire une légende, mais je ne peux pas donner de titre à mon information. Il faut que j'aille chercher dans un autre document qui a une autre adresse dans un autre format. Et c'est justement ce fameux document, c'est un fichier XML qui fait près de 20 mégas. Donc, je ne sais pas s'il y a des informaticiens dans la salle, mais c'est un gros fichier. En fait, moi, je voulais l'afficher, le faire défiler dans la présentation, mais ça faisait planter le programme. Donc, juste un petit screenshot comme ça. Mais donc, finalement, on a voulu rendre libérer les données pour qu'elles soient des données lisibles par la machine, mais finalement, on a produit des données qui sont lisibles que par elles. Donc, c'est un peu le paradoxe, justement, de ce mouvement, de cette initiative Open Data, c'est de rendre des données accessibles. Alors, pour qu'on puisse faire des traitements automatisés, etc., pour que n'importe qui puisse les récupérer, il faut qu'on puisse les rendre lisibles par une machine. Et donc, du coup, on a fait ce genre de truc qui, finalement, c'est complètement lisible par des humains, uniquement lisible par des humains qui sont capables de maîtriser la machine qui va permettre d'extraire les informations. Donc, justement, Magali m'avait présenté comme ingénieur qui... aspire les open data, c'est ça. Je crois que c'est ça sur le. Et donc, justement, c'est mon boulot dans le cadre du projet de Magali, c'est de faire en sorte d'aspirer les données de manière à ce qu'on puisse en faire autre chose. Mais en termes d'extraction, on peut se dire c'est open, c'est super. Pas vraiment, parce qu'il y a des mécanismes de quota. C'est-à-dire qu'on peut aspirer les données, mais pas autant qu'on voudrait. Il faut quand même savoir déjà à peu près ce qu'on veut faire, dans quelle quantité. Donc, il faut déjà un petit peu connaître les données qu'on veut récupérer avant de pouvoir le faire. Ce qui est parfois assez paradoxal. On a des mécanismes de filtrage des robots. Donc, les robots, ce n'est pas des robots physiques, R2-D2 qui se baladent. C'est tout ce qui est, dans notre jargon, tout ce qui est programme, application, qui va de manière automatique explorer ces différents jeux de données pour essayer d'extraire les informations qui nous intéressent. Donc, ils ont des mécanismes plus ou moins élaborés pour empêcher qu'on automatise l'extraction des données. Mais c'est mal foutu, donc on passe à travers. Comme dit, ça fait 15 ans que j'aspire des data, donc c'est pas ça qui m'arrête. Mais c'est vrai que globalement, la plupart des interfaces favorisent l'extraction manuelle. Donc c'est assez étonnant, c'est que tout est fait pour que donc il y a toutes des interfaces de programmation, des choses qui semblent extrêmement ouvertes, détaillées, mais dès l'instant qu'on commence à essayer de les exploiter, on se rend compte que elles sont faites avant tout pour que ce soit manipulé par un humain via son navigateur ou via un outil spécifique. Dès l'instant qu'on veut vraiment automatiser, faire des traitements par lot comme on dit, ça devient tout de suite très compliqué. Il faut faire appel à des astuces plus ou moins ardues pour parvenir à nos besoins. Et puis, donc, il y a l'homogénéité des formats, ils ont standardisé, c'est très bien, mais les services et leur terminologie sont totalement hétérogènes. C'est pas du tout. Si je veux chercher des données sur Eurostat, j'ai un programme qui le fait, je peux tout récupérer, c'est super. Mais si je veux appliquer le même traitement sur le site de l'ONU, au CDE ou autre, je voulais d'un peu d'en voir ma copie parce que c'est pas les mêmes terminologies. C'est pas totalement les mêmes processus. Et puis après, les hypercubes, il faut les déplier. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Donc ça reste en... Bon, après, qu'est-ce qu'on en fait de ces données-là qu'on a difficilement extraites? À la base, est-ce que les aboutissants sont à la hauteur des tenants? C'est-à-dire, à la base, c'était pour améliorer la gouvernance, lutter contre la corruption, améliorer la transparence des services publics, les allocations de ressources. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on vraiment, ça permet aux citoyens de prendre le contrôle de leur vie? C'est un peu la grande utopie de l'open data. Est-ce qu'on en fait vraiment ce genre de choses, des open data? En fait, on en fait des études de marché. On en fait des analyses stratégiques de territoire. C'est un peu la même chose, hein. On l'utilise pour améliorer la satisfaction client. Ça, c'est ce qui se fait beaucoup aujourd'hui au niveau de l'exploitation des open data. Il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'on appelle le data activisme, où là, on est moins dans l'exploitation des open data que dans la production d'open data. Donc, il y a des initiatives comme openspending.org, donc c'est une initiative citoyenne, internationale, qui vise à produire de l'open data où elle n'existe pas. Typiquement, c'est dans des gouvernements qui sont très fermés, où justement rien n'est diffusé. Ils se débrouillent pour récupérer les informations comme ils peuvent, peut-être en piratant parfois certains comptes email ou des choses comme ça. Ils récupèrent des documents papier ou numériques et ils essayent de faire en sorte qu'ils puissent être rendus accessibles à l'ensemble des citoyens. Qu'est-ce qu'on fait avec les open data? Bon, on fait ce qu'on appelle data vise, c'est un néologisme qui regroupe en fait tout ce qui est représentation graphique des données statistiques ou géographiques. Et c'est assez vaste, hein. Ça va de l'aide à la décision, la création artistique, en passant par le support didactique, ce qu'on appelle les mashups aussi, on va mélanger différentes open data pour créer de l'information qui va servir soit d'aide à la décision ou d'œuvre d'art. Donc c'est vraiment l'utilisation de base telle qu'on le rêvait, se fait pas trop aujourd'hui. Il y a des initiatives qui sont quand même assez intéressantes où peut-être le citoyen s'y retrouve. Donc là, un exemple en Angleterre où ils ont rendu public les données de consommation de gaz et d'électricité. Et le fait de les rendre publiques a entraîné en fait peut-être une rationalisation de cette consommation et des économies de 16%. C'est ce qu'ils disent. Aussi en Angleterre, donc ils utilisent dans la ville de Trafford les open data pour optimiser la mise à disposition des défibrillateurs et l'accès à ceux-ci, donc justement en connectant en temps réel l'emplacement des ambulances, l'analyse démographique, etc. Donc c'est une utilisation, on va dire, positive des open data. Ça tourne toujours autour beaucoup de comment on dépense l'argent public. Donc ça, je crois que c'est la ville de Seattle qui publie ce genre de graphique. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, essayer de rendre le plus transparent possible ce genre d'informations, de dépenses publiques. Et bon, là, pas mal de villes s'y mettent. Est-ce que les données sont justes? Je ne sais pas forcément. Ensuite, on entre plus dans le côté DataVise, donc c'est comment utiliser les données ouvertes pour faire informer le public, sensibiliser autour de certaines problématiques. Là, typiquement, c'est tout ce qui est statistique lié au meurtre ou au décès par arme à feu aux États-Unis. Donc, okay, un problème assez critique dans ce pays-là. Donc, il y a eu beaucoup d'artistes, de designers et de statisticiens qui travaillent autour de ça, et en s'appuyant sur les open data, produisent ce genre de travaux qui peuvent aider justement à visualiser, à sensibiliser le public par rapport à ces problématiques. Donc là, c'est juste statique, mais normalement c'est en mouvement et c'est interactif. Et c'est des trucs qui sont intéressants aussi, par exemple, au niveau de l'environnement, dans la ville de New York, et la population, les types d'arbres, et aussi l'évolution au cours de temps. Donc c'est des exemples. Visualisation à la carte des vents des États-Unis. Ça aussi, c'est le genre d'exemples d'open data qui sont accessibles et qu'on peut utiliser pour faire des travaux informatifs ou artistiques, visualiser de manière un peu plus créative la Coupe du Monde 2014. Bon, ça, c'est des petits exemples. Le financement global de la santé, ce genre de graphique qui peut être intéressant, voir justement ce qui rentre et ce qui part des différents pays par rapport aux différentes maladies, malaria, tuberculose, sida, etc. La part des pays au niveau de leur contribution à ce genre d'initiative. On retrouve beaucoup ce genre de graphiques qui sont parfois utilisés uniquement d'un point de vue esthétique. En fait, je ne sais même plus sur quelles données sont basées cette œuvre. Il y a des artistes qui utilisent les open data juste pour leur utilisation esthétique, pour en faire, avoir une vision un peu différente, par exemple, de l'économie globale. Donc, je ne sais plus exactement ce que ça signifie, mais voilà, c'est un artiste qui fait différents graphiques sur l'économie globale, différents flux les flux monétaires ou autres, et les représente sous une forme. Peut-être plus trop ce que ça. Oui. Voilà. Et justement, c'est ce que je voulais dire aussi rapidement, c'est que on s'improvise pas statisticien. Les open data, c'est beaucoup de données statistiques, mais la statistique, c'est une science, une méthode, c'est un ensemble de techniques, et donc on s'improvise pas statisticien. C'est pas parce que j'ai accès à l'open data que je peux en faire n'importe quoi. Et surtout un des dangers de ça, c'est justement ce principe de la corrélation n'applique pas la causalité. C'est pas parce que deux données semblent corrélées surtout visuellement, que forcément il y a un lien de causalité entre elles. C'est-à-dire que je peux très bien faire un graphique qui lie la part de marché d'Internet Explorer avec le nombre de meurtres aux États-Unis. On se rend compte que c'est pas, heureusement que de moins en moins de personnes utilisent Internet Explorer, parce que peut-être qu'il y a corrélation entre ça et puis les meurtres aux États-Unis, où typiquement le taux de divorce au Maine est corrélé à la consommation de margarine. Bon, il y a plein de, voilà, des exemples à la con, mais c'est juste voilà, pour dire que c'est pas parce qu'on a accès à l'open data et qu'on peut facilement faire des graphiques, mettre en corrélation, je sais pas moi, l'autisme, la vente de nourriture bio, que forcément on va produire une information qui est pertinente. Et donc, voilà, plus pour conclure rapidement, pour revenir à la définition, donc l'open data, données numériques, public, privé, structuré, libre accès, etc. Bah, en réalité, l'open data, ça demeure une donnée complexe, à usage principalement privé, diffusé de manière hétérogène, en accès souvent limité, selon des méthodes exigeantes, réutilisables avant tout par des personnes qui sont initiées aux techniques, ou en tout cas à l'usage qu'on peut en faire, et qui restent soumises à des restrictions techniques, juridiques ou financières. Techniques, bah, parce qu'il faut avoir accès aux outils nécessaires à leur exploitation, juridiques, parce qu'il y a encore des données qui ne sont pas forcément librement exploitables. Elles sont accessibles, on ne peut pas en faire tout ce qu'on veut. Et financière, parce que bah, certaines données dites open data, dès qu'on veut rentrer un peu plus dedans, bah, il faut payer. Et typiquement, en France, je crois que les données, certaines données, il faut payer 70 000 euros pour accéder. Je ne sais plus lesquelles. Il y a des trucs qui sont assez...
C'est cher.
Bravo.
Voilà, donc on peut pas, bon, faut pas trop être étonné si l'open data n'a pas vraiment suscité l'engouement public espéré au départ. Et si je dirais, on n'a pas non plus les bénéfices qu'on pouvait escompter, parce que ça reste encore quelque chose d'assez fermé, contrairement à ce que le terme implique.
Je crois qu'on a été un peu long. Bon, on avait beaucoup de choses à transmettre. Peut-être si vous avez des questions, je ne sais pas.
Petit commentaire, je crois qu'il y a quelque chose qui manque dans la genèse du bonheur, c'est la question de la raison. Parce que si on parle du bonheur citoyen, c'est quand même bien l'inventer, ce citoyen qui va être libre, libéré de l'oppression et sur le fondement duquel repose la légitimité du pouvoir une fois qu'on a coupé la tête au roi. On est quand même bien emmerdé pour dire d'où vient la légitimité du pouvoir. Ça vient d'un citoyen doué de raison qui serait heureux, c'est-à-dire pas malheureux, c'est-à-dire pas opprimé, c'est-à-dire libéré de l'oppression. Je crois que dans la genèse du bonheur, il y a la nécessité pour le pouvoir moderne d'inventer la source de sa propre légitimité. C'est peut-être une variable, la raison. Il ne faut pas oublier qu'il va peut-être un peu croiser malheureusement ou heureusement d'autres lignes comme la subjectivation, la psychologisation. Après, juste une remarque sur pourquoi est-ce qu'on quantifie, comme l'a dit l'économiste, mesurer c'est gouverner, c'est pas pour rien que maintenant c'est l'État qui fait les stats et plus le clergé dans ses registres paroissiaux, c'est parce que si c'est l'État qui a le monopole du pouvoir, c'est lui qui compte son troupeau. Et puis, ça peut être intéressant d'aller creuser du côté de la philosophie de l'utilitarisme. Et peut-être aussi de ce que dit Hannah Arendt sur l'utilitarisme et sur la fonctionnalité, sur comment la modernité évolue vers une pensée très fonctionnelle. À un moment, je crois que c'est dans son ouvrage sur la modernité, sur l'homme moderne, je ne sais plus comment ça s'appelle, si vous dites, j'ai plus ça. Mais elle dit, quand on donne une fonction et quand on veut tout utiliser, finalement les choses disparaissent. Une fois qu'on aura domestiqué le vent pour qu'il nous soit utile, le vent en tant que vent aura disparu du monde. Alors peut-être qu'en 2150, ce qu'on pourrait célébrer, c'est la disparition de la subjectivité. Puisque
C'est une construction historique.
Hein, et on la réunifie et on l'objective pour en faire quelque chose d'autre. D'ailleurs, pour en faire un marché, pour en faire un outil d'étude de marché. Voilà. Peut-être qu'en 2150, on pourra célébrer ça, ce serait super sympa.
Je note. Oui.
Ce qui est dans toutes ces données, en fait, je crois qu'il y a quand même deux types de données. Il y a les données où on mesure, je ne sais pas, le nombre de naissances, des choses comme ça, enfin des données objectives, on va dire. Et puis, il y a tous des sondages qui se présentent comme des données objectives, alors qu'en fait, c'est que très partiel et que finalement, c'est des modèles de représentation qui nous font croire que... il y a des échantillons qui, soi-disant, seraient représentatifs, ce qui est complètement un fantasme, en fait, mais on s'en rend compte à chaque élection, d'ailleurs, de ça. Et du coup, je pense que il me semble que c'est intéressant de questionner aussi, parce que là, vous êtes beaucoup sur la manipulation de la donnée, mais comment elle est créée aussi ? D'où elle vient, ça semble...
Alors, j'ai quelques réponses, parce que là, on n'a pas tout montré, mais ouais. Emmanuel Didier, donc le sociologue de la quantification, il en parle assez bien. Moi, j'étais partie aussi au départ sur cette idée, y a des données objectives, et puis il y a des trucs subjectifs qui sont quand même, qui doivent être récents, et puis un peu étonnants. Et en fait, lui, historiquement, il dit que les premières statistiques dont il a connaissance, c'est un spécialiste des États-Unis, là, je l'interviewais, il était à Los Angeles, remontent au XVIIIe siècle. Et que c'était aussi des formes de sondages subjectifs, puisqu'il explique, alors je vous le fais très rapidement, c'est un truc sur l'agriculture, en tout cas les questions posées aux agriculteurs américains du 19e siècle, 1800 et quelques, c'était « Pensez-vous que par rapport à d'habitude, vous allez faire une meilleure récolte ?» ou « Pensez-vous que votre récolte va être moins bonne ?» Et donc on est déjà sur ce premier organisme statistique américain, sur une forme d'interrogation qui prend en compte le ressenti et de l'anticipation et du prévisionnel. Et à partir de ça, il explique, j'ai pas mis l'extrait, mais à partir de ça, on en déduit des données objectives qui nous sont présentées comme telles. Voilà, c'est effectivement très impressionnant et on l'entend beaucoup à la radio et bon, pour moi c'est intéressant d'en prendre la mesure, mais c'est pas du tout récent. Et ça augmente parce que là, ce qu'on nous montre sur l'INSEE, c'est effectivement quelque chose... c'est même plus rien ce qu'on mesure. Quoi.
Et puis au niveau des données elles-mêmes, il n'y a pas du tout de différence. Il n'y a pas de degré de subjectivité du jeu de données auquel on va accéder. Quoi.
Ouais,
que ce soit la mesure du bonheur ou le nombre de chasses d'eau, toilettes avec chasses d'eau par habitant, c'est les numériques qui sont
différents. C'est dans les mêmes listings. Les deux sont mélangés. Et j'ai l'impression, mais ça c'est une impression, ce sera peut-être l'étude d'après, que les politiques publiques se basent autant sur les données objectives que ce qui nous semble comme quelque chose de subjectif. D'ailleurs, Emmanuel Didier le dit à un moment, il dit, mais il n'y a pas de différence en fait dans toutes ces études-là. Dans ce domaine-là, ça semble très... voilà, faut que je précise ça. Mais
c'est comme, par exemple, ce que tu nous as montré, le positionnement, le classement de la France par rapport à l'open data. Mmh. On voit, elle était mal classée, elle est bien classée, ça change. Mais comment ce classement est-il fait en réalité? Comment la mesure est produite? Vu ce que tu nous as présenté du domaine,
oui.
On peut bien imaginer qu'en fait, il est impossible de faire ces mesures de façon sérieuse.
Bah en fait, on va difficilement au-delà des données elles-mêmes. On ne sait pas comment elles ont été extraites, quels sont exactement les formulaires auxquels les personnes ont répondu. En plus, là, j'avais montré, c'était l'Open Data Index, mais il y a un Open Data Barometer, c'est un autre site, où là, la France, c'est l'inverse. C'est l'inverse. En fait, la France, tu inverses la France et Taïwan, c'est pareil, quoi. La France était genre 10e avant, en 2014, et là, dans l'Open Data Barometer, en 2015, elle est 3e ou un truc comme ça.
Mais si on parle des baromètres, ouais. Là, ils viennent de sortir le rapport annuel du bonheur 2016, vient de sortir, avec un classement, avec des moyennes, et on est très mal placé. Et on est si mal placé qu'on est tout près du Koweït, des Émirats et de la Thaïlande. On est très très mal placé.
Alors on est mal là. Oui.
Ah oui, je voulais vous mettre ça aussi. C'était bien. Mais je vais finir ce que je dis.
Ah oui,
et du coup, on en a parlé avec Claudia Hachénik en lui demandant, c'est quand même... C'est vrai que pour peut-être spécialement une femme en France, voir qu'on est situé au niveau du bonheur au même endroit que les Émirats Arabes Unis, ça laisse un peu sans voix. Et en fait, ce que j'ai cru comprendre, hein, j'ai dit ça avec beaucoup de conditionnel, c'est qu'effectivement, en fait, on questionne les gens, on leur demande est-ce que vous êtes heureux. Effectivement, moi je peux répondre, super, hein. Et une émirate va dire qu'elle est très heureuse et épanouie. Donc si on prend ça comme Et c'est ça qui est, qui serait, voilà. Et en plus, ils sont très souvent, c'est des services délégués aux instituts nationaux. Donc, c'est les INSEE, les différents INSEE des différents pays. Donc, c'est ce qui est mis en valeur.
Et qui vont-ils interroger? Qu'est-ce qui est représentatif pour eux de...
C'est toute la question. C'est pour qui, pourquoi et comment et qu'est-ce qu'on en fait après?
Qu'est-ce qu'on en fait?
Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, je crois qu'il faudra qu'on retourne la voir, Claudia Sénic. Il y a quand même dans l'interview 2-3 trucs, donc je l'appellerai, où elle dit que c'est pas normatif, et après elle nous dit que tout est noté, qu'ils cherchent en fait à savoir quelle est la définition du bonheur de chacun, mais finalement on ne leur demande pas du tout, on leur demande juste de se mettre des notes.
C'est pas normatif, en même temps, le simple fait de poser totalement la question va créer une réalité qui n'existait pas avant la question.
Oui, c'est ça.
Qui se pose en permanence exactement, la question de est-ce que je suis heureux, enfin, c'est un coup à jeter de la tour Eiffel. Quoi.
Bah, ça dépend pour qui, mais on peut voir ça comme ça.
Oui, mais
c'est peut-être ça.
Ça ne dit pas ce que doit être le bonheur, c'est dans ce sens-là qu'elle dit.
Enfin, oui,
c'est pas
probablement.
Parce que c'est performatif, là, c'est plus du coup.
Il faudra que je lui redemande.
C'est Claudia.
C'est Nika. Tu peux dire plus fort?
D'écrire, ça n'implique pas nécessairement de conséquences sur le réel. Hein.
Ouais.
C'est intéressant aussi la discussion sur le qu'est-ce qu'on fait de ces données, comment ça nous influence. Quand tu dis bon, l'évaluation du bonheur dans les Émirats arabes, enfin, la désinformation a toujours existé. Elle n'a pas nécessairement besoin. Maintenant, son vocabulaire peut s'armer de ces évaluations. Mm-hmm. Mais en réalité, les moyens de désinformer, notamment sur des thèmes comme cela, on les a toujours trouvés. Enfin, c'est aussi un peu la question de savoir ce que ça modifie.
Moi, ce que j'aurais, pour répondre à ce que tu dis sur ce que ça modifie, je lui redemanderais bien, effectivement, quelle politique publique on va baser sur ce questionnaire de l'INSEE. Parce que globalement, ils vont quand même, puisqu'ils l'ont quantifié et que ça devient donc un objectif de politique publique, qu'est-ce qu'on va... Voilà. Mais ça, elle n'a pas encore la réponse, puisque ce questionnaire, dont je vous ai lu quelques questions, là, va intégrer les sondages de l'INSEE dans les mois qui viennent, et ensuite avoir lieu tous les 3 mois. Et donc ça, ça peut prendre quand même un temps certain avant d'avoir une forme de...
Il marche ton petit schéma d'avant
Ça?
Ah non, pas celui-là, l'autre celui avec les petits posters.
Ah merde, ah ben ça c'était des blagues que Sébastien en a fait parce que ben, ce sera le projet artistique, mais avec je le mettrai après avec l'apéro. Alors d'accord. Attends, je vais essayer de te remettre le. Non mais.
Parce que
il était bien, ouais, je l'ai désactivé.
C'est quoi la bonne combinaison pour que.
Alors ça c'était, voilà, ça c'est pour moi effectivement. Pardon, je t'ai coupé Laurent. Ouais.
Quelle est la bonne combinaison pour que la petite fleur française soit.
Si je crois que c'est celui-là.
Plus haute.
Il est où là? Je ne le vois pas. Attends.
Je ne sais pas, on est où
Ça m'a aussi questionné et j'ai eu beaucoup de mal. Donc ça, c'est ce que j'appelle là le panneau qui est là. Pour moi, c'est exactement comme les pyjamas à la
redoute.
La France, elle est où déjà? Je ne la vois pas.
À gauche. Tu remontes. Indicateur, tu descends.
Voilà. Donc, on est là. Merci.
Qu'est-ce qu'il faut monter pour être tout seul?
Apparemment, pas la santé, ce qui est quand même assez
exaspérant. La sécurité.
Bon, on n'est pas terrible.
Non, mais c'est-à-dire que les autres indicateurs jouent un rôle, là. Il paraît très faible, mais ils jouent un rôle aussi.
Emploi.
Non, ça va pas.
Ah, et ça?
Emploi, oui.
Non, en fait, il n'y a rien qui permet d'être en
haut. Les États-Unis, eux, ils sont en haut.
Si tu vas sur revenu,
le Canada.
Revenu ou emploi.
Alors, ce que m'expliquait le directeur du bonheur, du centre national, enfin, du bonheur national brut du Bhoutan, il disait, ça a été mis par une statisticienne, il faudra probablement que je contacte. Et... ça leur sert, en fait, c'est-à-dire que là, ils sont en train de savoir ce que je fais, évidemment. Et donc, ils s'intéressent de savoir où est-ce qu'on clique et de savoir à quoi les gens s'intéressent par rapport à cet indicateur du mieux vivre, évidemment.
Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de définir des sociétés téléologiques, hein, c'est-à-dire fondées sur un seul critère. On va rechercher à maximiser la production, on va rechercher à maximiser un seul critère. Et ça, c'est.
Zéro critère, il y en a quand même qui sont en l'air. Hein.
C'est quand même bizarre quand il n'y a plus rien. Hein.
C'est dommage. Je
jouais en même temps que tu parlais. Alors, il y a les différences hommes-femmes. Ah, voilà, donc là, vous avez le graphique avec la différence hommes-femmes entre rouge et bleu et les petites lignes.
Ce n'est pas les mêmes préoccupations.
Ben non, on n'a peut-être pas la même santé, par exemple. Vous voyez? Ah, et la satisfaction, puisque le bonheur va si bien aux femmes.
Ça ne fait rien.
Ah, je vous laisse chacun projeter ce qui vous plaît. Moi, j'ai pas de...
Mais le problème aussi dans ce graphique-là, là, c'est que en fait, on a ça a à voir avec les open data aussi.
Oui.
C'est qu'on a en fait une boîte noire. Ouais. On ne sait pas ce qu'il y a derrière le
Oui.
Et quand on compare différents indicateurs, si on compare celui-là avec un autre indicateur qui s'appelle l'indicateur de santé sociale, dans celui-là, dans le logement, c'est le nombre de mètres carrés par habitant. Dans l'indicateur de santé sociale, en fait, c'est le nombre d'expulsions locatives. Mmh. Donc on voit bien qu'on ne parle pas du tout la même chose.
Tout à fait, bien sûr.
C'est pas du tout la même chose. Et je trouve qu'un des problèmes de tout ça, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on parle de logement, mais de quoi parle-t-on? Et quelle est la problématique sociale à laquelle on veut répondre en définissant cet indicateur ou cet autre indicateur? Et on en revient aux questions pour les indicateurs de bonheur, de satisfaction. Quelle est la question qu'on pose?
Quelle est la question?
Quel est le chiffre qu'on va chercher? C'est exactement la même question.
C'est très différent. Et on l'a pour le chômage, hein, beaucoup.
C'est ça,
oui, beaucoup.
Le taux d'emploi, qu'on prend, le taux d'emploi du BIT, qui est une heure travaillée par semaine ou par mois, c'est pas de l'emploi. Sauf qu'on dit, voilà, on a ce taux d'emploi, mais personne ne sait ce qu'il y a derrière. Mm. C'est-à-dire, en fait, quelle est l'histoire qui est racontée par ce chiffre-là, ou, même si c'est du qualitatif, quelle est l'histoire qui est racontée par la question qui a été posée pour avoir ce qualitatif. Et je trouve que ce qui manque beaucoup dans ces questions-là, c'est justement ce dessin de l'histoire que l'on veut raconter avec cette donnée. Parce qu'en fait, il y a des choix derrière. Quoi, voilà.
Mais juste pour rebondir d'un point de vue peut-être plus personnel, puisque c'est un projet artistique, ce que vous citez sur le Bureau international du travail, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai été aux États-Unis, mais il y a plus de 20 ans, où j'arrêtais pas d'entendre en France, on est en 93, donc taux de chômage 13%, encore plus élevé que maintenant, moi je finissais mes études, et chômage, on arrive aux États-Unis, 3% de chômage, on n'a pas de chômage, et puis la réalité sur place, ce que je voyais, c'était pas ça du tout. Et donc moi je leur avais demandé, je leur ai dit, mais... en fait, on parle de quoi? Il m'avait raconté ça, mais nous, 2 heures employées par semaine, on ne peut pas être considéré comme chômeur. Alors qu'en France, moi, pendant pas mal d'années, j'avais plusieurs emplois à temps partiel un peu pas terribles. Et donc, j'étais toujours inscrite comme demandeur d'emploi, puisque je cherchais un autre travail. Mais je gagnais ma vie. Et ça, on se l'entend à la radio, toujours, 20 ans après, avec la même approximation comparative. Quoi.
Il y a aussi l'histoire de la réponse, parce que par exemple, quand une femme des Émirats dit qu'elle est heureuse, moi ça me fait penser à une recherche sur le milieu professionnel où il s'avère qu'en fait, ce sont les gens les moins qualifiés qui sont qui se disent les plus satisfaits de leur emploi. C'est-à-dire que quand on n'est pas qualifié, il y a un tel coup psychique à se dire pas satisfait de son travail, alors qu'on ne peut pas en changer, que finalement on s'aperçoit que sont ceux qui sont les plus qualifiés et les plus en haut de la hiérarchie qui peuvent, eux, changer de travail, qui psychiquement peuvent se permettre de se dire insatisfaits de leur travail, et que finalement, plus on a un bon boulot, et plus on a la liberté de se dire insatisfait de son niveau. Donc les filles émirates, elles peuvent se dire vachement satisfaites, parce que peut-être c'est vachement coûteux pour elles de se dire que non, elles sont pas douces.
Non, mais il y a une autre réponse sur les Émirats, enfin, quand même, c'est le fait que la population qui est interrogée est. À ma connaissance, c'est quand même une minorité.
C'est pas les esclaves qui font la cuisine.
Oui, voilà. Le rapport de l'ONU ne le dit pas. Le
ni qui construisent les bâtiments. Oui.
Tout à fait.
Et du coup, c'est la population qui est interrogée, n'est pas la population qui vit dans ce pays-là. Et si on est
d'ailleurs, la jeune femme, là, elle est à l'aise.
Je crois que c'est 15% de la population. Qui vit sur place, les Émirats. Ouais, et on peut boire et puis on répond à vos questions. Mais oui, bien sûr, il y en a déjà qui se sont. Merci.